ornithologue et vous nous apprenez à parler chien couramment sans aboyer. Pour dévoiler la vérité d'un compagnon si proche et pourtant mystérieux, vous avez le profil idéal.
On m'apprit très vite en effet que l'homme est supérieur aux animaux et qu'il peut donc disposer d'eux comme bon lui semble. On m'apprit aussi que les animaux vivent, puisqu'ils viennent au monde, se reproduisent et meurent, mais qu'ils n'existent pas vraiment.
À l'origine, un amour des bêtes et une thèse de doctorat sur l'apprentissage et la mémoire des jeunes mammifères. C'est en 2017 que vous vous faites connaître du grand public avec La vie secrète des chats à la télévision, avant de prolonger l'aventure en librairie. Dans la tête d'un chat, La bête en nous, le grand livre de l'intelligence animale. Toujours la même ambition, faire entendre ce que les animaux pensent, ressentent et nous disent avec leur langage à eux.
Le chat est l'animal le plus aimé à travers le monde, le plus représenté aussi, devant le chien. Il a dépassé le chien depuis quelques décennies déjà. Il y a des études scientifiques qui ont montré que le simple fait de visionner des vidéos humoristiques, souvent de chats, va nous procurer du bonheur.
Chat, abeille, loup, vous avez exploré bien des mondes, mais c'est le chien, ce louveteau éternel, qui révèle peut-être le plus intime de notre alliance avec l'animal.
C'est pas tous les chiens, mais certains chiens, effectivement, ont cette capacité à sourire, et donc on pense que c'est par imitation de l'être humain avec lequel ils vivent.
Dans le monde secret du chien, vous nous apprenez donc que le meilleur ami de l'homme sourit, comprend près de 90 mots, décèle nos humeurs et parfois nos maladies, et vit dans un monde d'odeurs quand nous vivons d'images. 250 millions de cellules olfactives contre 5 millions pour l'homme. Interdire à un chien de renifler, dites-vous, c'est comme bander les yeux d'un enfant. Et pourtant son regard, lui, nous transperce, un simple échange, et voilà que l'ocytocine, hormone de l'attachement, circule entre maître et animal, comme entre une mère et son enfant. Mais ce lien d'amour, avertissez-vous, nous oblige. On n'adopte pas un être qui nous donne tout pour ensuite l'abandonner. Respecter son altérité, voilà la clé. Et vos mots résonnent comme une évidence. Deux êtres sociables qui ont bien fait de se rencontrer.
On appelle néothénique, alors c'est un nom un peu savant, pour l'exprimer simplement, le chien c'est finalement un louveteau dans le corps d'un adulte. Pourquoi ? Parce qu'il a conservé des comportements juvéniles au stade adulte de par sa domestication, notamment le chien aboie, comme le font les louveteaux, le chien bat de la queue pour exprimer ses émotions, comme le font les louveteaux. Et en fait ce processus de domestication va littéralement transformer les espèces animales qu'on domestique en juvéniles éternels. Et c'est pour ça que je parle de louveteau éternel quand j'écris le chien.
Donc louveteau comme le petit du loup.
Comme le petit du loup, oui, tout à fait, parce que c'est important de le préciser, c'est que tous les chiens partagent un mamancette qui est le loup.
C'est ça.
On connaît, on sait bien la relation très utilitaire qu'il y a pu avoir. Le chien nous a rendu quand même beaucoup de services, mais vous dites qu'il y a aussi un rapport presque qui pourrait s'apparenter au coup de foudre, qu'il y a de l'ocytocine, même cette hormone de l'amour entre un chien et son maître, c'est pas
oui.
Un peu loin
tout
quand
à
même
fait. Bah, en fait, on a des expériences scientifiques qui soulignent le fait que le simple fait de regarder son chien dans les yeux va libérer de l'ocytocine à la fois chez l'humain et chez le chien. Et donc on a une boucle de rétroaction positive au niveau de cette ocytocine qui est l'hormone de l'attachement, qui va permettre justement, plus on regarde son chien, plus il nous regarde, plus l'attachement se renforce entre les deux. Et donc ça c'est quelque chose qui manifeste assez brillamment la coévolution qui a eu lieu entre ces deux espèces.
On apprend plein de choses dans votre livre, et notamment le sourire du chien. Le chien sourit vraiment. Alors pourquoi il a appris à le faire? Comment ça s'explique?
Eh bien oui, c'est pas une vue de l'esprit. Moi-même, au début, je me suis interrogée longuement sur ce sourire du chien. Et c'est d'ailleurs celui qu'on voit sur la couverture du livre. C'est vraiment pas un biais anthropomorphique. Le chien a appris à sourire comme un humain. Pourquoi? Parce qu'il a développé, au cours de sa coévolution avec l'homme, le muscle majeur zygomatique, donc qui est le même muscle qui nous sert à sourire. Et c'est une manière pour lui de communiquer efficacement avec son humain. J'ose même plus utiliser le terme maître aujourd'hui, tant c'est dépassé. Mais c'est surtout une manière de manifester sa joie auprès de son humain quand il est content de le voir. Et il ne manifeste ce comportement qu'à l'occasion d'interactions très positives, quand notamment il fait la fête à son humain.
Alors, on va regarder tout de suite une autre photo de chien, justement. Et on a l'impression que là, voilà, comment on peut l'interpréter finalement?
Alors, on peut l'interpréter un peu comme un regard coupable, j'ai envie de dire.
Ah, coupable.
Il a fait une bêtise et il est vrai qu'on s'est longuement interrogé sur ce sentiment potentiel de culpabilité qui pourrait exister chez le chien. Aujourd'hui, la science n'a pas tranché, mais ce qu'on sait, c'est que quand le chien arbore ce regard très, très particulier, c'est que souvent il a fait une bêtise, en effet, mais ça serait plutôt une forme d'apaisement pour apaiser son humain qu'il prendrait cet air-là.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est presque sûr de ce langage? Est-ce qu'aujourd'hui, il fait consensus parmi tous les spécialistes du monde animal?
Je dirais que oui, dans le sens où on a prouvé l'existence du développement de ces muscles spécifiques au niveau de la face. Donc on a parlé du muscle zygomatique, mais il y a aussi un muscle releveur de sourcils qui va permettre au chien d'exprimer ses émotions d'une manière très humaine. Et je consacre un chapitre entier qui s'appelle « Un animal humanisé » parce que littéralement, le chien est un peu le miroir de l'homme. On a fait de cet animal quelque part un animal avec lequel on peut vraiment facilement communiquer parce qu'il s'exprime un peu comme nous. Et à contrario, finalement, on arrive à mieux le décoder aussi parce que le chien s'exprime d'une manière où il est plus lisible, plus intelligible des humains.
C'est incroyable hein, ce chiffre. Vous parlez de 250 millions de cellules olfactives. Donc le pif du chien, c'est très très important pour lui. Quand il va dans les recoins ou qu'il tire sur sa laisse pour aller renifler, qu'on l'empêche de faire, ça peut être dangereux pour lui?
Oui, en fait, pas tant. C'est pas vraiment dangereux, mais ça porte atteinte finalement à son bien-être, parce que qu'est-ce qu'un chien? Un chien, c'est un animal qui évolue dans ce qu'on appelle un nouvel, donc dans un monde particulier qui est un monde essentiellement olfactif, là où nous sommes des primates à prédominance visuelle, c'est-à-dire qu'on a tendance à regarder le monde d'abord sur des stimuli visuels. Le chien, lui, vit dans un monde d'odeurs, donc lorsqu'on tire sur la laisse et qu'on empêche son animal de renifler les odeurs, eh bien évidemment, on met court à une richesse de stimuli, et je trouve ça très dommageable en fait pour l'animal.
Alors, Jessica Serre, vous parlez, vous dites que le chien mérite le même amour et la même attention que les humains. On va voir avec vous, Natacha, qu'une entreprise espagnole a pris ça vraiment au pied de la lettre.
Hein. Oui, c'est l'entreprise Patitas & Co. qui propose à ses employés un congé pour le décès d'un animal de compagnie, 3 jours de congé payé. La fondatrice de cette société spécialisée dans les produits et l'alimentation pour animaux considère que le deuil d'un animal de compagnie est terrible. Pire encore que celui de certains membres de la famille avec lesquels nous passons pas beaucoup de temps. Alors en France, ce type de congé, c'est très rare. Depuis 2024, seule la SPA le propose à ses salariés. On peut dire que cette initiative va dans le sens d'un mouvement, d'un changement sociétal. Selon une enquête Ipsos, 68% des Français considèrent que leur chien est un membre à part entière de la famille et non pas un animal domestique. 6 personnes sur 10 affirment que la perte de leur animal est un moment de souffrance. Mais alors dans le code du travail, on n'a pas de jour de congé payé lors du décès de notre chien ou de notre chat. Jessica Serra, selon vous, ce deuil canin, c'est quelque chose qui n'est pas assez pris au sérieux?
Oui, qui est sous-estimé, je pense, parce qu'aujourd'hui, les langues se délient, on arrive à parler un peu plus ouvertement, et notamment sur les réseaux, de la perte de son animal. Mais c'est un véritable deuil qui commence quand on perd son animal, parce qu'il représente un pan de l'existence, parce qu'on a tissé un lien d'attachement absolument unique avec chaque animal, puisque chaque animal est unique et a sa propre personnalité. Et en France, d'ailleurs, il y a une initiative qui œuvre justement à instaurer un jour de congé payé en cas de perte de son animal de compagnie.
Le chien, quand même, a aussi des vertus thérapeutiques, hein, c'est ce qu'on apprend dans votre livre. Vous dites le chien diminue l'hypertension, le cholestérol, protège des allergies.
Oui, on a de véritables études scientifiques à l'appui qui montrent qu'effectivement, le chien va contribuer à la santé cardiovasculaire, va diminuer le stress, va diminuer le risque d'allergie. Quand on possède un chien dans sa jeunesse, on a moins de risque de développer une allergie à l'âge adulte. Et encore une fois, c'est vraiment des études rigoureuses qui sont derrière ça. Mais évidemment, le chien, c'est pas, j'allais dire, un médicament. Hein.
C'est un médicament miracle. Aussi.
Voilà, c'est pas un médicament miracle, mais on va dire qu'on peut l'utiliser en termes de prévention de ce type de maladie.
Et bien tout ça, on le découvre dans votre livre, Le monde secret du chien, c'est à lire ou pas avec son animal domestique. Ben voilà, si vous avez envie. Voilà, c'est à lire. Merci beaucoup en tout cas, Jessica Serra, d'être passée ce soir à 20h.